Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola officiellement déclarée en RDC hier vendredi avec comme épicentre la cité minière de Mongualou en Ituri. 8 cas positifs confirmés sur 13 échantillons prélevés, indiquent les analyses de l'Institut national de recherche biomédicale. Tenu hier à Matadi, dans le Congo central, du Forum économique sino-congolais sur l'investissement et la coopération, l'ambassadeur de Chine en RDC a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer son partenariat avec la province du Congo central. L'invité de ce journal est le point focal de la synergie paix et sécurité au Maniema. Zahira Chami parle de la crise institutionnelle qui sévit dans cette province. Dieudonné Nyangassa assure la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je le disais tantôt, le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré hier vendredi la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé de Rwampara, Mongualou et Bunia dans la province de l'Ituri. Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, les analyses de l'Institut national des recherches biomédicales, INRB, ont confirmé 8 cas positifs sur 13 échantillons prélevés. Il s'agit de la souche Bundibugyo. À ce jour, 246 cas suspects et 80 décès ont été notifiés, dont 4 testés positifs. Les détails avec vous, Jean Grandou.
Dans un communiqué officiel, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures urgentes, notamment l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge gratuite et l'isolement strict des cas suspects ou confirmés, également le déploiement des équipes d'intervention rapide et des médicaments essentiels et l'intensification de la communication sur les risques et engagements communautaires. Le ministre appelle la population à rester vigilante, à signaler tout cas suspect et à éviter des contacts physiques avec les malades ou les personnes décédées. Un numéro vert, le 151, est disponible pour toute information utile. Ensemble, par la vigilance, la collaboration et la solidarité, nous vaincrons encore une fois cette épidémie, a déclaré le ministre.
Au lendemain de la déclaration officielle par le gouvernement congolais de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, les mesures barrières commencent progressivement à s'installer à Mongualou, cité minière située à environ 85 km de Bunia et considérée comme l'épicentre de l'épidémie. Sur place, des équipes sanitaires parcourent les quartiers pour sensibiliser la population au respect des mesures d'hygiène destinées à limiter la propagation de la maladie. Mais dans les rues, peu d'habitants appliquent réellement ces recommandations. Les points avec Jean-Claude Lokidili.
Ce matin encore, le centre commercial de Mongualou s'est réveillé dans une ambiance presque habituelle. Les marchés restent fréquentés, les boutiques ouvertes, les motos assurent le transport et les enfants continuent à se rendre à l'école selon plusieurs habitants contactés sur place. Pourtant, des récentes apparentes normalités, l'inquiétude grandit depuis la déclaration officielle ce vendredi 15 mai par le gouvernement de l'épidémie en province avec déjà plus de 80 décès enregistrés. Toutefois, dans certaines rues, quelques habitants commencent à porter des cache-nez, signe d'une prise de conscience progressive de la gravité de la situation. Gloire Mumbessa, habitant de Mongualou, témoigne.
On a vu dans les rues différentes personnes en cache-nez. C'est comme si la population savait déjà que vu les décès en cascade dans la zone, il y aurait peut-être une épidémie. La population jusque-là n'a pas encore compris qu'est-ce qu'il faut faire exactement.
Pendant ce temps, les équipes sanitaires multiplient des campagnes de sensibilisation dans les quartiers. Elles rappellent notamment l'importance du port de masque, du lavage régulier des mains, de l'évitement des attroupements ainsi que des enterrements sécurisés. Selon le bourgmestre de Mongualou, 2 nouvelles personnes, dont une femme transférés à l'hôpital, sont décédés durant la nuit dernière. Par contre, d'autres sources médicales évoquent au moins 4 décès supplémentaires. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et pendant ce temps, plusieurs cas suspects de la maladie à virus Ebola sont actuellement pris en charge dans différentes structures sanitaires de Bounia et de Mongualou. Les équipes médicales et les partenaires de santé se mobilisent pour identifier les personnes contacts afin de limiter la propagation de cette épidémie. Toutefois, certaines sources médicales déplorent le manque de moyens financiers et d'équipements nécessaires pour assurer une riposte efficace. Les points avec Isaac Remoyopé.
À l'hôpital général des références de Bounia, 6 cas suspects d'Ebola sont actuellement placés sous surveillance médicale. Les patients sont isolés dans une unité spéciale afin d'éviter tout contact avec les autres malades. À l'hôpital de Rwampara, à une dizaine de kilomètres de Bounia, un autre cas suspect est également pris en charge. Avant-hier, un patient présentant des symptômes de fièvre et de vomissements a été signalé à la clinique Babenda avant d'être transféré à l'hôpital général des références de Bounia. Des cas suspects sont aussi signalés à l'hôpital général de Mungwalu, situé à environ 85 km au nord de Bounia, une zone considérée comme l'un des épicentres de cette épidémie. Par ailleurs, certaines personnes contacts commencent déjà à être référées dans les structures sanitaires pour des examens médicaux. Mais selon plusieurs sources médicales, le principal défi reste l'identification de toutes les personnes contacts encore dissimulées dans la communauté. Les mêmes sources évoquent également le manque de moyens financiers et d'équipements adaptés pour assurer une prise en charge efficace des malades. À l'hôpital général de Bounia, par exemple, seules 6 places sont actuellement disponibles pour l'isolement des patients. Pendant ce temps, les autorités sanitaires de Bounia et de Mungwalu multiplient les réunions avec les partenaires de santé afin de renforcer la lutte contre cette maladie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Le Forum économique sino-congolais sur l'investissement et la coopération s'est tenu hier vendredi à Matadi, dans la province du Congo central. Cette rencontre a réuni des acteurs économiques autour de l'ambassadeur de Chine en RDC. Zhao Bin a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer son partenariat avec la province du Congo central. Élise Kavira pour plus de détails.
Le diplomate chinois a échangé lors de ce forum économique avec les autorités provinciales sur les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la province du Congo central. Dans son intervention, le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo a mis en avant les atouts de la province, notamment dans les secteurs portuaires, agricoles, énergétiques et industriels. Il a invité les entreprises chinoises à investir davantage dans les infrastructures afin de soutenir le développement local. De son côté, Zhao Bin a salué la solidité des relations entre la Chine et la RDC, rappelant qu'en 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 26 milliards de dollars avec un solde favorable à la République démocratique du Congo. Enfin, l'ambassadeur chinois a présenté Matadi comme une porte stratégique reliant la RDC au reste du monde, tout en saluant la contribution des entreprises chinoises à la création d'emplois et au développement économique dans la région. Matadi. Élise Kavira, Radio Kapi.
Et puis au Kasaï oriental, une délégation du groupe de coordination des partenaires de la RDC a clôturé hier vendredi en Mbujimayi sa mission de travail par un point de presse. Cette plateforme qui regroupe bailleurs de fonds et agences des systèmes des Nations Unies a évalué plusieurs projets dans les secteurs de l'eau et de l'énergie autour du thème du renouveau de la ville. Objectif, renforcer l'accès à l'eau potable et assurer une énergie durable. Des explications avec Esther Ndalafina.
Durant leur séjour, les membres de la délégation ont visité les installations de la régie des eaux, les associations des usagers des réseaux d'eau potable ainsi que les infrastructures de la régie provinciale du service public de l'eau du Kasaï oriental. À l'issue de ces visites, Marcel Banza, représentant du coordonnateur résident du système des Nations Unies, a dressé un premier bilan.
Les infrastructures que nous avons visitées rappellent que l'accès à l'eau potable n'est pas seulement un service technique, mais un droit fondamental au cœur de la santé publique, de la dignité humaine et du développement socio-économique.
Pour sa part, Astrid Meyer, chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne et coprésidente du GCP, est revenue sur les réalisations enregistrées ces dernières années dans la province.
Plus de 2,8 millions de personnes ont obtenu un meilleur accès à l'eau potable grâce à la construction de plus de 1200 points d'eau publique et à plus de 2100 nouveaux branchements domestiques. 270 bornes fontaines, 1700 branchements privés ont été installés.
L'Allemagne, à travers la GIZ et la Banque de développement KfW, demeure l'un des principaux partenaires de la RDC dans les secteurs de l'eau. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kinshasa, par ailleurs, le phénomène des véhicules abandonnés dans les différentes avenues de la ville suscite de plus en plus d'inquiétudes. À Binza-Delvaux, dans la commune de Ngaliema, des véhicules accidentés et hors d'usage occupent depuis plusieurs mois une partie de la chaussée. Entre garages improvisés, démontage des pièces en pleine rue et absence de fourrières, Cette situation perturbe la circulation et réduit l'espace routier. Elle alimente également un sentiment d'insécurité parmi les riverains. Face à ces désagréments, ils appellent les autorités à prendre des mesures pour dégager ces emprises routières. Reportage signé Gloriane Lepea.
Sur place, certains mécaniciens installés le long de cette avenue reconnaissent exercer leurs activités dans des conditions précaires. L'un d'eux explique qu'ils occupent cet espace faute des sites appropriés et lance un appel aux autorités pour trouver une solution durable.
Ici, nous sommes sur l'avenue Collège, quartier Bango à Delvaux. Je démonte les pièces. Nous sommes des jeunes débrouillards. Nous demandons aux autorités de nous aider. Ils nous avaient promis un lieu, mais jusque-là, nous ne l'avons pas. C'est pourquoi nous travaillons sur l'avenue.
De leur côté, les habitants dénoncent une occupation anarchique de la chaussée qui perturbe fortement la circulation et accentue les embouteillages. Ils réclament notamment l'installation d'une fourrière pour évacuer les véhicules abandonnés.
Nous ne pouvons pas accepter que les parkings fictifs prennent en otage la population ici à Delvaux. Chaque jour, les habitants souffrent. Nous demandons vraiment des mesures immédiates pour mettre fin à ces anarchies. La fourrière doit pas seulement s'occuper des véhicules mal garés au centre-ville, mais dans certains quartiers aussi, comme ici à Delvaux.
Au commissariat de Delvaux, la police confirme que ces véhicules accidentés restent sur place en raison de l'absence de fourrière. Elle reconnaît également que cette situation favorise l'insécurité dans la zone. Toutefois, des démarches sont en cours, dit la police, pour les faire évacuer.
Retour en Ituri où le comité associatif résolu pour la défense et la protection des droits humains, Koardo Djougounor, salue le cessez-le-feu unilatéral décrété par le mouvement armé Convention pour la révolution populaire CRP de Thomas Lubanga. Dans une déclaration faite hier vendredi à Bunia, cette structure de défense des droits humains parle d'un pas considérable vers le retour de la paix dans les territoires de Djougou. Elle espère à travers cette décision à une fin des attaques contre les civils, le retour des déplacés dans leur village, ainsi que la reprise des activités scolaires et socio-économiques interrompues pendant plus d'un an dans plusieurs entités. Son coordonnateur, Benjamin Gabou, l'a dit à Martial Kizabiamungu.
C'est une décision qui démontre clairement une réflexion sur les souffrances imposées au peuple. Nous demandons également aux combattants de la CRP de respecter ce cessez-le-feu, de cesser toute attaque contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous les encourageons à s'engager dès maintenant dans la voie du dialogue comme l'ont fait d'autres groupes armés dans l'intérêt supérieur de la protection des civils et dans l'intérêt du rétablissement de la paix à Djougou, la paix dont nous avons besoin depuis lors. Par cette même occasion, nous exprimons notre profond respect, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au gouverneur de la province de l'Ituri, qui ne cesse d'appeler tous les groupes armés, malgré les crimes commis, à revenir à la raison et à ouvrir le cœur au dialogue pour le retour de la paix. Voilà, les fruits commencent à se manifester et nous croyons que ça sera le début de la phase de paix que Djougou retrouvera.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, l'opposant ivoirien Assalé Temoko est mis en examen pour diffusion de fausses informations, atteinte à l'ordre public et émission d'expression outrageante, selon un communiqué de son mouvement. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire a décidé. Trois chefs d'inculpation notifiés vendredi 15 mai lors d'une audience au parquet du tribunal d'Abidjan. L'ex-député est ressorti libre, mais a été placé sous contrôle judiciaire. Et puis Donald Trump a annoncé hier vendredi que les forces des États-Unis et du Nigeria ont tué un chef présumé de l'organisation État islamique EI. C'est la deuxième fois en cinq mois que le président américain lance une intervention de son armée au Nigeria où il a dénoncé des supposées persécutions dont seraient victimes les chrétiens.
L'invité.
L'invité de ce journal est le point focal de la synergie paix et sécurité au Maniema. Zahira Chami parle de la crise institutionnelle qui sévit dans cette province. En effet, la coalition des femmes du Maniema a adressé une lettre ouverte au vice-premier ministre de l'Intérieur pour le rétablissement de la paix institutionnelle et la cohésion sociale dans la province du Maniema. Zahira Chami s'entretient avec Florence Kizalunga.
Zahira Chami, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Aujourd'hui, une lettre ouverte adressée au vice-ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui est contenu dans cette lettre?
Madame la journaliste, notre lettre ouverte, c'est un plaidoyer urgent pour une implication en faveur du rétablissement de la paix institutionnelle et cohésion sociale dans la province du Maniema. Puisque nous voyons l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, les choses ne marchent pas. Il y a tantôt, on parle des motions, il y a ceux qui refusent que le gouverneur aille se présenter. Il y a ceux qui sont pour l'interpellation. Alors, nous, en tant que maman, nous disons que pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces querelles-là? Nous, en tant que maman, notre souci est qu'ils s'attendent, qu'ils travaillent en franche collaboration.
Alors, qu'est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur peut faire pour résoudre cette question?
Nous pensons que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est lui le chef de la sécurité. Il peut appeler ou convoquer ces deux membres qui se disputent et leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent cheminer ensemble et laisser tout ce qu'ils sont en train de faire.
Aujourd'hui, vous demandez l'implication du vice-ministre, ministre de l'Intérieur, pendant que lui-même avait signé un moratoire au refusant des déstabilisations, que ce soit à l'Assemblée provinciale, tout comme au gouvernement provincial.
Oui, nous avons écrit et nous avons écouté ce moratoire. Mais ce qui nous étonne, c'est ce moratoire, on n'a pas pris en compte, puisque presque partout, on attend toujours des conflits, on attend toujours des querelles. Peut-être lui peut changer encore autre façon de faire pour que les choses aillent dans le normal.
À part cette lettre ouverte que vous adressez au vice-ministre, ministre de l'Intérieur, quel est l'autre accompagnement ou bien apport de femmes du Maniema dans la résolution de ces conflits institutionnels dans la province du Maniema?
À part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous lançons aussi notre écrit aux chefs religieux, aux acteurs de la société civile, aux partenaires de la consolidation de la paix pour qu'ils puissent nous venir en aide afin qu'on puisse mettre fin à ces querelles. Aussi, nous femmes, nous sommes en train de faire le dialogue entre ces deux parties qui sont en conflit.
Qu'est-ce que vous craignez dans ces disputes des politiciens aujourd'hui dans la province?
Nous, à notre tour, madame, nous craignons que tout ce qu'ils sont en train de faire, les retombées, c'est à la population. Et vous pouvez voir, madame et le journaliste, même les projets de développement qui sont financés par le gouvernement, par les partenaires financiers et qui sont en train d'être exécutés, sont restés suspens. On ne sait quoi faire. Même nous ici, madame les journalistes, nous sommes bloqués. Nous avons un projet de plaidoyer qu'on voulait aller vers les deux institutions, mais nous sommes bloqués. Qui est-ce qu'on peut aller voir au moment où ils sont encore entre des disputes? Nous voulons que ce genre de disputes puissent prendre fin et puis qu'on puisse avancer, continuer avec les actions de développement dans notre province.
Êtes-vous sûr que votre lettre, votre cri sera arrivé à qui de droit?
Exactement, madame le journaliste. En tant que maire, nous sommes convaincus que notre cri va arriver à qui de droit. Nous sommes sûrs de ça. Même comme je parle ici à la radio Okapi, je suis sûr et certain que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il est en train de m'écouter. Je lance un cri aux autorités provinciales de laisser ce qu'elles sont en train de faire, de travailler en harmonie pour bien relancer les activités dans notre province du Maniema. Le Maniema n'a pas besoin de querelles. Le Maniema a besoin de la paix. Nous voulons la paix, rien que la paix, madame les journalistes. Nous voulons la paix, madame, pour que les choses aillent normalement. Notre province est vraiment en retard par rapport à d'autres provinces. Chers politiciens, travaillez en collaboration pour le développement de notre province.
Zahira Chami, merci.
Madame les journalistes, c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Et c'était notre invité, le point focal de la synergie paix et sécurité au Maniema, Zahira Chami, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Jude Mister Bilandankoumar. Dédoné Nyangassa a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle rapidement que l'actualité reste dominé par la déclaration officielle de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo hier vendredi, avec comme épicentre la cité minière de Mongwalou en Ituri. 8 cas positifs confirmés sur 13 échantillons prélevés, indiquent les analyses de l'Institut national des recherches biomédicales. Et puis, tenu hier à Matadi, dans le Congo central, du Forum économique sino-congolais sur l'investissement et la coopération, l'ambassadeur de Chine en RDC a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer son partenariat avec la province du Congo central. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.